Bienvenue à cette nouvelle discussion où on plonge dans vos sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on entend absolument partout, mais qui reste souvent un peu flou, le serveur.
Ah oui?
On a tous une image en tête, là, probablement une grande salle froide remplie de machines qui clignotent. Mais est-ce que c'est vraiment ça?
C'est le mythe classique popularisé par le cinéma.
Exactement. Alors, grâce à un document de cours très détaillé qu'on a reçu, on va décortiquer les fondements des serveurs, de la virtualisation et aussi de Windows Server. Notre mission, c'est de rendre ces concepts techniques clairs, accessibles et honnêtement intéressants.
Ben oui.
Alors, commençons par ça, par cet image d'Épinal. Le serveur, est-ce que c'est forcément une énorme machine surpuissante?
C'est une excellente question pour commencer. Et la réponse, c'est non, pas du tout. La puissance ou la taille, là, ça n'a presque rien à voir avec la définition d'un serveur. C'est une fausse piste.
Le document utilise une analogie que j'ai trouvée vraiment excellente, celle de la voiture. C'est pas la puissance du moteur qui fait d'une voiture une voiture, c'est sa fonction de transport. Une petite citadine, une Formule 1, c'est les deux des voitures. C'est pareil ici, j'imagine.
C'est exactement la même logique.
Alors, si c'est pas la puissance, c'est quoi la définition formelle? C'est juste un ordinateur qui donne des choses à d'autres ordinateurs.
C'est ça, mais formuler un peu plus, précisément. Un serveur, c'est une entité qui peut être matérielle ou logicielle et qui offre des services accessibles via un réseau. Son rôle, c'est de répondre aux requêtes d'un client. C'est la fameuse relation client-serveur qui est à la base de presque tout ce qu'on fait en ligne.
OK, un exemple simple.
Le plus simple. Ton navigateur web, c'est un client. Quand tu tapes une adresse, il envoie une requête à un serveur web qui, lui, a la page. Le serveur répond en envoyant les données et ton navigateur les affiche. C'est tout.
Attendez, vous avez dit matériel ou logiciel. Ça, c'est un point qui m'a vraiment surprise dans les sources. On pense toujours à la boîte, à l'ordinateur physique.
C'est un concept clé, oui.
Comment un simple programme peut être un serveur?
Bien, il faut penser que le service n'est pas fourni par le métal de la machine, mais par un programme qui s'exécute dessus. Fait qu'on peut installer un logiciel serveur, mettons le serveur web Apache, sur un portable tout à fait normal. Et à l'instant où ce programme démarre et se met à l'écoute sur le réseau, ton portable, à travers ce logiciel, devient un serveur web. La machine physique, elle, n'est que l'autre qui lui prête sa puissance.
Ce qui nous amène à une idée fascinante du document, c'est que...
Que ça peut être n'importe quoi.
Oui, un serveur peut être un vieil ordinateur qui traîne dans un placard ou même un tout petit Raspberry Pi à 50 $. Ça change complètement la perspective.
Absolument.
Ça veut dire que n'importe qui peut héberger un service. On n'a pas besoin d'un budget de centre de données. Ça démocratise l'idée même du serveur.
C'est exactement ça. La fonction prime sur la forme. Si on résume les caractéristiques, on retrouve toujours les mêmes choses. Un, il offre des services via un réseau. Deux, il est conçu pour fonctionner avec un minimum d'intervention humaine. On ne branche pas un clavier dessus tous les jours, là.
Non, c'est sûr.
C'est pour ça. Troisièmement, qu'on les isole dans des salles dédiées, sécurisées, climatisées, pour les protéger et gérer la chaleur. Mais au fond, leurs composantes, processeurs, mémoire, stockage, c'est les mêmes qu'un PC.
D'accord, c'est clair. Mais si on se concentre sur ces serveurs physiques dans leurs salles dédiées, les sources soulignent qu'il y a une tonne de contraintes qu'on n'a pas avec un ordi de bureau.
Tout à fait. La criticité, c'est le premier facteur. Si ton ordinateur personnel plante, c'est frustrant.
Oui.
Si le serveur où tu gères les commandes d'un site de e-commerce tombe en panne, l'entreprise perd de l'argent à chaque seconde. C'est pas la même game.
Non.
Ensuite, il y a la sécurité des données, l'accès physique qui doit être verrouillé, et puis la logistique, l'énergie, la chaleur. Une salle avec des centaines de serveurs, c'est un four qui consomme une quantité d'électricité phénoménale.
Et l'espace, si j'imagine?
Et l'espace. Chaque centimètre carré dans un centre de données coûte une fortune. Fait qu'on s'est vite rendu compte qu'avoir une machine physique par service, c'est un gaspillage monumental.
On se retrouvait donc avec des dizaines, voire des centaines de serveurs qui tournaient peut-être à 10 % de leur capacité?
Moins que ça, même. Je me souviens des centres de données au début des années 2000. C'était des allées interminables de boîtiers beige, chacun qui roulait une seule petite application utilisant à peine 5 % de son processeur.
Wow!
Un cauchemar de câblage, de consommation, de gestion. Le problème était criant. Et la solution qui a tout changé, c'est la virtualisation.
Alors, expliquez-nous ce concept. Comment on arrive à faire tourner plusieurs serveurs sur une seule machine physique?
L'idée de la virtualisation, c'est de séparer le logiciel, donc le système d'exploitation du serveur, du matériel physique. On installe une couche logicielle spéciale qu'on appelle un hyperviseur qui va prendre le contrôle total du matériel de la machine hôte.
L'hyperviseur.
Exact. Et cet hyperviseur, lui, est capable de créer des contenants virtuels qu'on appelle des machines virtuelles. Chaque machine virtuelle est une simulation complète d'un ordinateur. On peut y installer Windows, Linux, et pour ce système, il est impossible de savoir qu'il ne tourne pas sur du vrai matériel. On peut donc avoir un seul gros serveur physique qui héberge 10, 20, 50 serveurs virtuels.
Le document insiste beaucoup sur une distinction entre deux types d'hyperviseurs, le type 1 et le type 2.
Oui, c'est une distinction fondamentale.
Et le type 2, comme VirtualBox, c'est un logiciel que je peux installer sur mon portable. Ça semble tellement plus simple. Pourquoi une entreprise s'embêterait avec un hyperviseur de type 1, le Bare Metal, qui a l'air beaucoup plus complexe?
C'est une excellente question, et elle est au cœur du choix. L'hyperviseur de type 2, c'est pratique pour des tests, du développement, mais il a un gros défaut. Il doit passer par le système d'exploitation de la machine hôte, Windows, macOS, pour accéder au matériel.
OK, donc il y a un intermédiaire.
Exactement. Un intermédiaire qui ralentit tout. C'est comme parler à quelqu'un via un traducteur. L'hyperviseur de type 1, le Bare Metal, lui, il est installé directement sur le matériel. Il est le système d'exploitation de base.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Chaque machine virtuelle a un accès beaucoup plus direct, plus rapide au processeur, à la mémoire, au réseau. C'est une ligne directe. Dans un environnement de production où chaque milliseconde compte, la performance et la stabilité du type 1 sont non négociables. C'est pour ça que VMware ESXi ou Microsoft Hyper-V dominent en entreprise.
D'accord. La différence est donc énorme. Maintenant qu'on a ces concepts en tête, regardons un produit concret, Windows Server.
Windows Server, c'est simplement la version de Windows qui a été optimisée et outillée pour faire ce travail de serveur, offrir des services sur un réseau. Historiquement, les versions suivent de près celles pour le grand public. Par exemple, Windows Server 2022 partage le même noyau que Windows 11.
Et il y a un conseil très pratique dans nos notes à ce sujet. On nous dit que même si Windows Server 2025 est déjà sorti, c'est pas recommandé de l'utiliser en production tout de suite.
Ah non, surtout pas.
Nous, on se précipite pour avoir le dernier iPhone, mais là, le conseil, c'est d'attendre. Ça en dit long sur les priorités.
Exactement. Dans le monde des serveurs, la devise, c'est « si c'est pas cassé, on n'y touche pas ». La stabilité, c'est bien plus important que les nouvelles fonctionnalités. On laisse les autres trouver des bugs de jeunesse pendant des mois, parfois un an, avant même d'envisager une migration. La fiabilité, c'est la règle d'or.
Et Microsoft offre plusieurs éditions, j'ai vu ça. Data Center, Standard et Essentiel. Qu'est-ce qui les distingue, en gros?
L'édition Data Center, c'est le produit fort, le plus cher. Sa caractéristique principale, c'est qu'elle offre des droits de virtualisation illimités. T'achètes la licence pour le serveur physique et tu peux créer autant de machines virtuelles Windows Server que le matériel peut en supporter.
Pour les grosses entreprises, donc.
C'est ça. Ensuite, il y a l'édition standard, qui est la plus commune. Elle offre presque tout le même service, mais elle est limitée à 2 machines virtuelles par licence.
Seulement 2, ça me semble très peu. Si j'ai une machine assez puissante pour en faire tourner 20, est-ce que cette limite est juste commerciale pour nous pousser vers data center ou il y a une raison technique?
C'est purement une segmentation commerciale. Il n'y a aucune barrière technique. C'est un modèle de licence. Les PME commencent avec standard et, si leurs besoins augmentent, elles achètent d'autres licences ou elles passent à data center. C'est une stratégie de montée en gamme. Et cette version standard inclut tous les services qui sont le cœur d'un réseau d'entreprise. DHCP pour distribuer les adresses, DNS qui est l'annuaire téléphonique d'Internet et Active Directory, le grand gardien qui gère qui a le droit de faire quoi.
Et la version essentielle, c'est pour qui?
L'édition essentielle, elle est beaucoup plus confidentielle. C'est pour les très petites entreprises avec une limite de 25 utilisateurs. C'est plus simple, moins cher, mais ça n'inclut aucune fonction de virtualisation. C'est vraiment une porte d'entrée.
D'accord. Mais la chose qui me semble la plus contre-intuitive, c'est le mode d'installation. On nous parle d'un mode Core.
Ah, le mode Core.
Pas du bureau, pas d'icône, pas de menu démarrer, juste un écran noir avec du texte. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on choisirait d'installer un système aussi complexe, sans aucune interface graphique? Ça semble un retour en arrière de 30 ans.
C'est déroutant au premier abord, c'est vrai. La raison la plus simple, c'est l'économie de ressources. L'interface graphique, ça consomme de la mémoire, de la puissance de calcul. Sur un serveur, ces ressources-là sont précieuses.
OK. Ça, c'est logique.
Mais la raison est beaucoup plus profonde que ça. C'est une philosophie.
Une philosophie développée.
Installer un serveur en mode core, ça force l'administrateur à changer sa façon de travailler. On ne peut plus cliquer sur des boutons. On doit traiter le serveur non pas comme un PC, mais comme un appareil programmable qu'on gère avec des scripts, des lignes de commande. Je me souviens de ma première installation en mode core. J'étais habitué à ma souris, je me suis retrouvé devant ce curseur qui clignote sur fond noir et c'était terrifiant.
J'imagine.
Mais j'ai vite compris que c'était une libération. Sans interface, on se concentre sur l'essentiel. Et surtout, c'est la base de l'automatisation à grande échelle. C'est ça qui a ouvert la porte à la gestion de parcs de milliers de serveurs. On gère pas 10 000 serveurs avec une souris. On le fait avec du code.
C'est une perspective fascinante. Donc, si on fait l'impasse sur cette philosophie et qu'on choisit l'installation avec interface graphique, ça ressemble à quoi? C'est différent de mon Windows 11?
Visuellement, ça y ressemble beaucoup. Le bureau, l'explorateur de fichiers. Mais une différence majeure saute aux yeux au démarrage. Une application qui s'appelle le gestionnaire de serveurs se lance toute seule.
Le poste de commandement.
C'est exactement ça. C'est un tableau de bord centralisé qui permet de voir l'état de santé du serveur, d'installer des services qu'on appelle des rôles et de tout configurer à partir de là.
Et en parlant de configuration, il y a un point crucial dans les sources sur le réseau. Un détail technique, mais qui a l'air fondamental.
Oui, l'adresse IP. Par défaut, un serveur va essayer d'obtenir une adresse IP automatiquement via DHCP, comme n'importe quel ordi. Mais pour un serveur, c'est une très, très mauvaise idée.
Pourquoi?
Un serveur doit toujours avoir une adresse IP statique, c'est-à-dire une adresse qui ne change jamais. La raison est simple. Les clients doivent savoir où le trouver en permanence. Si l'adresse de ton bureau de poste changeait tous les jours, tu ne recevrais jamais ton courrier.
C'est une bonne image.
C'est le même principe. L'administrateur doit configurer manuellement une adresse fixe et s'assurer qu'elle ne bouge plus.
Et la sécurité, comme les mises à jour? Sur mon portable, elle s'installe toute seule, des fois au pire moment. J'imagine que sur un serveur, c'est impensable.
Impensable, c'est le mot juste. On veut surtout pas qu'un serveur qui gère la paie de 500 employés redémarre tout seul un mardi à 10 heures du matin pour une mise à jour. Les services seraient coupés.
Non, c'est clair.
Fait que les mises à jour sont désactivées par défaut. C'est à l'administrateur de les planifier, de les exécuter manuellement, souvent la nuit ou la fin de semaine pendant des fenêtres de maintenance. Et c'est crucial, parce que l'antivirus intégré dépend de ces mêmes mises à jour pour être efficace.
On a beaucoup insisté sur le fait que ces serveurs sont dans des salles sécurisées et gérées à distance. Concrètement, on fait ce comment?
La méthode la plus courante dans l'écosystème Windows, c'est le bureau à distance, le Remote Desktop. C'est un outil qui te permet de voir et de contrôler l'interface du serveur depuis ton propre ordinateur, comme si tu étais assis devant.
Même s'il est à 10 km.
Exactement. Et pour les serveurs en mode core ou pour automatiser, on utilise des outils en ligne de commande comme PowerShell ou SSH. Mais la norme, c'est de ne jamais avoir à toucher physiquement un serveur une fois qu'il est installé. Tout se passe par le réseau.
C'est vraiment un autre monde. Si on devait résumer notre exploration, je retiendrais trois idées fortes. Premièrement, un serveur, c'est pas sa puissance qu'il définit, mais sa fonction, offrir des services. Un vieux PC peut être un serveur.
Tout à fait.
Deuxièmement, la virtualisation, c'est pas juste une astuce technique, c'est une révolution qui a stoppé un gaspillage monumental de matériel et d'énergie.
C'est vrai.
Et troisièmement, des choix qui semblent étranges, comme le mode sans interface graphique, ne sont pas des régressions, mais des évolutions philosophiques qui ont préparé le terrain pour l'informatique à très grande échelle.
C'est une excellente synthèse qui va au-delà de la technique. Et toute cette discussion sur la gestion à distance et les serveurs enfermés, ça soulève une question passionnante pour l'avenir.
Allez-y!
On a parlé de serveurs qu'une entreprise possède physiquement. Mais avec l'info nuagique, le cloud, ces serveurs sont gérés par des géants comme Amazon, Microsoft, Google. On ne voit plus la machine, on ne gère plus la chaleur, ni les câbles.
Mm-hmm.
Alors, comment le rôle de l'administrateur système évolue? Est-ce que la gestion des serveurs devient de plus en plus une affaire de configuration logicielle, de code, d'API et de moins en moins une affaire de matériel?
C'est une question qui redéfinit complètement un métier. La gestion d'infrastructures devient de la programmation d'infrastructures. Une excellente réflexion pour continuer à creuser le sujet. Merci beaucoup d'avoir éclairci tout ça.
Ça m'a fait plaisir.
Et merci à notre auditoire pour son écoute.